Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 181, spécial Les Vedettes, le second film du Palma Show, alias David Marsay et Grégoire Ludig au cinéma. On retrouve donc aujourd'hui le duo lors de la conférence de presse organisée par notre partenaire les CGR de Lyon, auquel Cinéphage a pu, grâce à cette petite interview, connaître les coulisses du tournage du film. Le duo que l'on avait déjà rencontré lors de sa venue à Tours, lors de son premier long métrage « Les aventures de Max et Léon ». Donc on commence donc à connaître un petit peu les deux complices qui vont maintenant nous parler de la jeunesse du film et du choix des acteurs. Donc on s'était vu la dernière fois, enfin personnellement je vous avais vu pour votre premier film.
Max et Léon.
Voilà, Max et Léon. C'était un petit peu le baptême du feu pour vous.
Tout à fait.
Comment vous est venue l'idée de ce deuxième film, votre collaboration?
Alors, à l'origine, après Max et Léon, on a cherché une idée de film. On a eu un peu le syndrome de la page blanche. C'est pour ça qu'on s'est mis à écrire beaucoup de sketchs. Dès qu'on avait une idée, ça tenait en 3 minutes. Donc on se disait que ça valait pas le coup de faire un film. Et arrivé un moment, on a commencé à développer un scénario autour d'un braquage dans un centre commercial. On est très content, on écrit pendant 5 mois, environ 50-60 pages du scénario, jusqu'à ce que Jonathan Barré le lise, notre réalisateur, et qu'il nous dise « Les gars, c'est pas génial ». Nous, effectivement, on se dit « Mais tu as complètement raison,
tu as raison.
C'est vraiment pas génial ». Et il nous dit « Je pense que vous devriez partir d'une anecdote d'un truc beaucoup plus simple ». En l'occurrence, moi, en venant, j'ai vu un truc, il y a un Américain aux États-Unis, c'est un peu un pléonasme, qui a vu qu'il y avait un type, non, Jonathan voit qu'il y a un Américain, qui a appris par cœur les prix des appareils d'électroménager pour pouvoir passer au juste prix, parce qu'il s'était rendu compte que les prix ne changeaient pas. Donc on a trouvé ça assez fascinant, et de ça, on a tiré les vedettes. Voilà.
Et justement, après les acteurs, comment ça se fait, le casting, comment vous avez choisi les personnages? Parce qu'il y a des personnages, des gros rôles qui sont terribles, je pense entre autres au petit-neveu rappeur.
Ah, il y a Théo Gross.
Oui, Bastien, le rôle de Bastien. Bastien, on l'a écrit, nous, un petit peu dans le prolongement des personnages de Morgane et Fabien qu'on aimait faire dans nos sketchs. Et voilà, on avait envie de trouver un jeune homme qui sache un petit peu ce qu'on voulait raconter et plutôt comment tourner en dérision ce genre d'ado, de grand ado. Et on a vu pas mal de jeunes, tous aussi bien les uns que les autres, mais il y en a un qui nous a tapé dans l'œil parce que quand il est arrivé, on s'est dit « mais il n'a pas du tout le... » Il n'a pas du tout le profil de ce qu'on cherche et tout, mais bon, voyons-le. Et au final, justement, là où il nous a vraiment coupé les pattes, comme on dit, c'est que quand il a commencé à jouer, il s'est littéralement transformé et on s'est dit « Ok, bon, bah, il vient de nous faire mentir, donc très bien. » Et on a été agréablement surpris et c'est très drôle parce qu'il était en plein examen. Il faisait quoi? Il fait quoi dans
l'étude? Il est en école d'ingénieur.
École d'ingénieur, donc on a aménagé le tournage avec, parce qu'il y avait des partiels, il avait des examens. Donc, un après-midi, il jouait Bastien avec des insultes, en veux-tu, en voilà. Et le lendemain, il était en examen total. Donc voilà, sinon pour les autres rôles, le rôle de Julien Pestel, le rôle de Blaise, par exemple, le producteur des jeux télé, on avait clairement envie de travailler avec lui. Donc celui-là, on lui a proposé directement, parce que pour nous, Julien c'est un acteur formidable et il a la fâcheuse tendance à sublimer ce qu'on écrit. Nous, on est contents de ce qu'on écrit. Mais lui, trouve toujours le petit truc en plus et il apporte sa dimension et son talent. Donc on est très heureux. Fred Costa, c'est Damien Gillard. Damien Gillard, un acteur belge qu'on trouve aussi absolument formidable. Et voilà, et ça nous a plu aussi de travailler avec quelqu'un avec qui... avec qui ce sera simple, avec qui on sait que le personnage sera respecté et surtout pas trop identifié pour que l'impact du personnage soit encore plus fort, quoi.
Alors, petite bande originale, donc on en a fait aussi dans l'originalité ce coup-ci, on a fait des extraits de faux clips et parodies faites par le Palma Show et donc j'ai choisi le rap des prénoms du Palma Show.
C'est à Saint-Lucien aujourd'hui, je sais que tu t'en branles, mais...
C'est un prénom de merde quand même. Mmh.
C'est un prénom de plombier, Lucien.
Mmh. Tu trouves pas?
Il y a un plombier, quand il se baisse, on voit toujours l'arrêt de son cul.
Ouais, Lucien, on voit l'arrêt de son cul parce que c'est un plombier. Mais les prénoms comme ça, hein, tu sais, c'est...
On devrait faire un sketch de ça.
Ouais, un rap?
Ouais, carrément un rap, c'est cool.
Ah, c'est bien, ouais. Mmh.
Regarde comment on les taille. Banane, jogging, plus besoin de détails. Mika et les Kevin, c'est les kékés du fond de la classe. Ils aiment le tuning.
agitant, toujours accusé à tort. Tous les jouets sont gays, mais ils ne savent pas encore. T'as vu les Olivier, c'est des putains de monos de ski. Mais ouais, ils sont sympas, c'est comme les Fredo et Thierry. Les Corinne, 35 ans, célibataire endurci, s'inscrivent tous les dimanches pour la victime du juste prix. Eric, Bruno, Teddy, des sapeurs-pompiers. Coupe en broche, Polo Brice, et t'es un anglais. Fais c'est dire l'autre colo, Hervé un bon bricolo.
Et Gérard,
c'est un bon potage colo. Yeah, yo, tu connais forcément quelqu'un dans le tas. Collerie sur tes potes, sur ta meuf ou sur ton papa.
C'est les prénoms, pas le bal macho, c'est les prénoms.
Chez Gaston, c'est Francky qui pousse les palettes. Et sur ta quête, bah c'est Dédé qui a fait mes plaquettes. Patrice et Fabrice, son manager chez Mondial Moquette. Didier fait des barbugs et les meilleures brochettes. Manu, Luc et Seb jouent tous d'un instrument. Pour péter Oasis et Radiohead autour du feu de camp. Et Pierre et Loïc, bah ils sont partis en mer. Comme tous les mecs en Ic, faire tour du monde en solitaire. Au supermarché, c'est toujours les mêmes
blazes.
Sylvie, Martine, Annick, j'en peux plus, ça me
blaze.
Sandrine est responsable du rayon P, tu m'as donné. Et Capucine,
t'as un prénom de poney.
Lucas, un nom d'Apache. Et chez Paul, y'a des sandwichs. Brian et Marlon rêvent de jouer dans Sunset Beach. Francis a une moustache. Et Gilou s'est poussé de bouc. En boîte, Pascal fait tâche. Et mes cérébales sur Facebook. Yeah, yo, tu connais pas. C'est manqué quelqu'un dans le tas. Collé sur tes potes, sur ta meuf ou sur ton papa.
C'est les prénoms, pas le bal macho. C'est les prénoms.
Natacha, c'est une coquine. Alors que Muriel rentre pas dans son slip. La rivière, ta banquière et Robert gras du bid. Les Cindy sont stagiaires chez Jean-Louis David. Les bonnes c'est toutes les mêmes, toujours celles qui s'appellent Sarah. Le truc c'est qu'elles se la donnent comme les meufs qui passent chez Sarah. Mike, John et Steve tapent chez Diesel. Rien un peu racailleux.
Hey, mademoiselle.
Florent est comédien et décroche des rôles pour Mélène. Inès, c'est la relou qu'on a bloqué sur MSN.
Les Marjolaine et Jeanne passent le concours d'un slip. José a un synthé et vous bagarre une grosse.
À toi l'honneur mon pote, leur annoncer les champions. La crème des crèmes du pire de tout ce qui se fait en prénom.
Rockstar du calendar, c'est des mecs exceptionnels. On se devait de finir sur
Tony, Serge et Lionel.
C'est les prénoms, pas le bal macho. C'est les prénoms, pas le bal macho. C'est les prénoms, pas le bal macho. C'est les prénoms. C'est les prénoms, pas le bal macho. C'est les prénoms. C'est les prénoms, pas le bal macho. C'est les prénoms.
Et on retrouve le deuxième extrait où les acteurs nous parlent à nouveau de leur dernier film, Les Vedettes.
On voit partout que c'est un film du Palma Show en fait. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver, qu'on retrouvait dans vos précédents projets, donc par exemple avec vos vidéos YouTube, dans Max et Léon ou dans Mandibule par exemple?
Comment ça? Alors Mandibule, c'est pas du tout de nous.
C'est Mandibule,
c'est ça que je veux dire, vos personnages.
Alors quelle est la différence, tu veux dire, entre...
Ouais.
En fait, j'ai pas bien compris la question, je suis désolé.
Pardon, c'est peut-être moi qui m'a exprimé. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver de vos anciens projets dans ce nouveau film?
Je pense que c'est un prolongement, c'est typiquement un prolongement de ce qu'on fait dans nos sketchs.
Tout à fait.
Dans le propos notamment. C'est un film qui parle du besoin de reconnaissance, qui parle de la surconsommation, qui parle. C'est une satire aussi de la télévision, donc c'est vraiment ce qu'on raconte déjà à travers nos sketchs. On va retrouver aussi deux nouveaux personnages qui sont façonnés un peu comme tous les personnages qu'on a pu faire dans nos sketchs, sauf que là, c'est la genèse de deux personnages. C'est-à-dire que c'est deux types qui ne s'entendent pas et on va voir comment l'histoire d'amitié va se dérouler. Voilà. Mais globalement, non, les gens ne seront pas trop perdus, a priori. C'est, beaucoup de gens disent que c'est un deuxième premier film et que ça nous ressemble beaucoup plus que Max et Léon, pour le coup.
Et sinon, j'avais une autre question aussi. Le film, vous l'avez dit, est une vraie critique de la société actuelle dans le monde du show business, comme Daniel aime l'appeler. Et vous avez décidé donc de le montrer avec humour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce show business, vous?
Nous, le show business, ça se passe très bien. Ça va, oui. Je pense qu'on a un rythme de vie et une vision de notre travail assez saine.
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, on prend le show business, comme on dit effectivement dans le film, mais avec des choses assez rétro. C'est-à-dire qu'on parle quand même de jeu télé, par exemple, Le Prix à tout prix, c'est quand même une référence d'il y a longtemps. Donc nous, on arrive un petit peu. Il y a ce petit côté nostalgique qui donne un petit regard enfantin malgré tout, ce que sont Daniel et Stéphane, de grands enfants, de grands naïfs au final. Mais nous, justement, on a un regard un petit peu comme tout le monde, on est un peu spectateur de tout. Je pense pas que ce soit une critique totalement, mais c'est plus un constat. Oui. Et nous, on n'est pas là pour donner des leçons, on est juste là pour se dire que voilà, les gens ont des rêves, les gens sont persuadés de choses, mais est-ce qu'on les incite pas tous un petit peu à être meilleurs que les autres et qu'on est quand même dans une société où on est à la recherche de reconnaissance tout le temps, c'est-à-dire que... Quand on regarde sur les réseaux sociaux, les gens cherchent les vues, les likes en permanence. On sort d'un ça peut être d'un restaurant, d'un taxi, d'un hôtel, je sais pas, ou même dans le monde du travail. On demande de noter, on demande de savoir si on est satisfait ou pas. Quelle est la qualité du travail dans les émissions de télécrochet? On dégage des gens, on en prend d'autres. Enfin, c'est hyper violent. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça qu'on a essayé de faire avec humour. Et voilà, donc là, le show business.
Oui, je crois pas que ce soit vraiment.
On s'en sent un peu.
C'est ça, oui, c'est ce que dit Greg. Je crois pas que ce soit une critique du show business, mais plutôt une critique de comment aujourd'hui on a un besoin de reconnaissance un peu maladif.
Comment on nous l'inculque.
Comment la société nous pousse à agir ridiculement pour avoir un moment de gloire.
C'est retranscrit que je voulais qui paraît dans cette chanson.
Et exactement. Ouais,
exactement. Voilà.
Deuxième extrait musical, donc avec les pères, toujours du Palma Show.
Parfois, tu as peur d'avoir fait une erreur, tu sais, faut avouer, faut à moi.
Nous retrouvons le duo du Palma Show dans un troisième extrait sur leur interview sur leur dernier long métrage.
Il y a aussi une bonne critique de la société de consommation. On l'a vu avec ton personnage qui a tous les choses derniers cris. Et à côté, l'autre qui vit dans son camtar, tranquille. Et ça, c'est aussi ça qui fait un petit peu le sel, cette opposition entre le super consommateur et l'autre qui subit la vie.
C'est ça. En fait, on voulait peut-être faire un peu plus qu'une comédie. On avait vraiment à cœur de se marrer, mais c'est vrai qu'on y a rajouté une dimension un peu plus social. Ça nous intéressait effectivement de mettre ces deux personnages en opposition qui viennent d'univers complètement différents mais qui ont le même problème. Ces deux types qui cherchent à s'intégrer en fait dans la société, qui sont très seuls. Donc ils utilisent des moyens qui sont malheureusement un peu ridicules, mais c'est la société qui les rend comme ça. Et heureusement, par chance, je ne raconte rien, mais c'est une histoire d'amitié et voilà, ces deux types qui finalement cherchent un lien vont progressivement le trouver petit à petit.
Nous, on a vu qu'il y avait une opposition de style donc, entre les deux personnages, donc celui de Daniel qui est un peu beauf et celui de Stéphane qui est plutôt très sérieux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de jouer ces personnages et est-ce que vous y avez pris vraiment beaucoup de plaisir?
Alors je qualifierais pas de Stéphane de très sérieux, moi personnellement.
Et ni Daniel de beauf.
Moi je qualifierais.
Mais on n'est pas loin, mais ouais. On n'irait pas jusque-là en tout cas.
C'est des types qui ont des complexes de supériorité et qui ont une grande naïveté. En gros, nos personnages, on les a conçus comme on les conçoit dans nos sketchs. C'est-à-dire que c'est des types qui n'ont que des défauts, qui n'ont absolument aucun recul. On trouve que des personnages qui ont des défauts nous permet voilà, de traiter justement les sujets. C'est à travers leur naïveté qu'on arrive à parler justement des travers de la société. Et c'est pour nous ce qui nous fait rire, même à travers les comédies qu'on aime. Par exemple, Louis Funès, si tu regardes bien, il est autoritaire, il est colérique, il est lâche.
Il est insupportable.
Théoriquement, tu ne peux pas aimer ce type. Pareil pour les bronzés, c'est que des ordures. On trouve que c'est beaucoup plus intéressant de partir de défauts. Et donc là, effectivement, on les a mis en opposition, mais pour voilà, réussir à alimenter un petit peu ça.
Là, c'était votre deuxième film. Quels ont été les problèmes, justement? Parce que le premier film, on sait qu'il y a des problèmes pour le monter. Et le deuxième, qu'est-ce qui a été dur?
Qu'est-ce qui a été dur, le deuxième? Oh, quelque chose qui s'appelle le Covid, par exemple. C'est-à-dire que sur le tournage, à 3 jours de la fin, donc après pratiquement 35 jours de tournage, le film s'est arrêté parce que 2 personnes sur le tournage ont eu le Covid. Et les 2 personnes, c'était nous. Donc voilà. Ça, c'était une vraie difficulté parce que le tournage a été décalé d'un mois, donc on a dû attendre. Vous connaissez tous les protocoles et tout, bref. Mais on n'a pas voulu que le Covid soit une source de... Enfin, quelque chose de démoralisateur. On avait vraiment envie de se dire, bon, c'est comme ça. De toute façon, on le subit comme tout le monde. Donc ce qu'on a fait, c'est que, encore derrière nos ordi, comme on était Covidé, on s'est repris le film rapidement. On a vu tout ce qu'on a tourné. On se dit, ok, vu qu'on retourne encore pendant 3 jours, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait améliorer? On reprend le scénario et tout. Donc au final, ce petit laps de temps nous a servi et on a essayé de faire de tout ce temps un allié et un peu de contrer cette vague Covid ultra chiante. Et au final, on s'est dit qu'on allait travailler à la place de le subir, cet enfoiré.
Extrait musical, toujours du Palmacho, ça sera Vianouche, Lâché en lit, donc une parodie de Vianney, bien sûr.
Ce soir c'est la Saint-Valentin, mais ma femme veut faire une pause. J'ai une soirée raclette demain, mais je suis intolérant lactose. C'est pas grave, c'est la vie. Mes potes partent pour le pont, moi je dois bosser lundi. C'est pas grave, c'est la vie. Oh, lâché en lit. Je suis chanteur, je suis fier, mais les gens n'achètent plus de CD. Ce week-end c'est la fête des mères, mais la mienne est décédée. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pas un grain de beauté, mon médecin veut me voir mardi. C'est pas grave, c'est la vie. Oh, là je suis en lit. Au 31 y'avait des huîtres, y'a que moi qui finis à l'hosto. J'ai appris que j'étais stérile, alors que ma femme accouche bientôt. Là je suis en lit.
Et nous voici enfin arrivés à la fin de l'interview de Grégoire Ludig et de David Marsay pour le film Les Vedettes.
Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui hésitent à aller voir Les Vedettes au cinéma?
N'hésitez pas.
Voilà. Vous allez, je pense, vraiment, j'espère du moins, rire,
passer un bon moment. Et dans ce crime, il meurt à la fin, donc ça sert à rien d'y aller.
Il y a quoi d'autre qui sort?
Uncharted, c'est un jeu vidéo, autant aller à la FNAC et vous l'acheter et c'est réglé.
Nouveaux personnages, univers différent et proposition peut-être un peu plus singulière que ce qu'on peut voir d'habitude.
Et puis, je crois. Et 5 pour faire le petit dernier, c'est vraiment l'univers Palmacho des sketchs qu'on retrouve au cinéma. Vous êtes d'accord ou pas si vous avez vu le film?
Dites-le.
Bon, voilà.
Et pour les auditeurs, est-ce que vous auriez une petite anecdote, quelque chose qui vous resterait de ce film, du tournage?
Moi, il me reste un blackout sur une scène d'action qui se passe, enfin, si on peut qualifier ça scène d'action, dans une piscine. Il y a une bagarre. Je me prends un truc dans la tronche à un moment. J'ai fait un léger coma. Voilà, je vous laisse avec ça.
Mais ça a été très bien, l'anecdote. On vous rassure, ça a été très bien, très vite.
C'était très bien, ça a duré 2 secondes, mais voilà.
Non, on s'est bien marré et puis on est fiers de
c'est ça.
On est content d'avoir pu faire un deuxième film qu'on a... Voilà, on a mis 5 ans à l'écrire, à le sortir après Max et Léon, et lentement mais sûrement, et on est très content de ce qu'on propose. Film pour faire un film après Max et Léon, on n'en avait pas envie, on avait vraiment envie d'avoir un propos et de raconter quelque chose. Alors après, ça plaira ou ça plaira pas, mais nous au moins, on est très content de ce film.
Ouais. On est vraiment très très fiers de ce film, on a mis le temps, et aujourd'hui, voilà, ça ressemble à ce qu'on... ce qu'on voulait faire. Beaucoup de gens disent que c'est un deuxième premier film et je suis assez d'accord.
Est-ce que vous avez déjà eu une avant-première avant ou tout va être la première?
On a déjà eu, on est à deux semaines. On est à fin de deuxième semaine d'avant-première.
Ouais. Et comment ça, le film?
Super. On est vraiment content pour plusieurs raisons. Déjà, on est content parce que les gens rient. On est content parce que les gens se déplacent, parce que les gens se déplacent en famille, les gens se déplacent entre amis. Donc on a la chance, nous, d'arriver devant des salles pleines et vous savez pas quel bonheur ça nous procure. On est fiers, on est émus, on sent que les gens sont aussi contents de sortir, ils sont contents que des gens viennent les voir, donc il y a vraiment un espèce d'esprit
partage de cinématographique.
Voilà. On vit quelque chose d'assez cool et on remercie encore une fois tout le monde et je crois qu'on remerciera jamais assez les gens qui se bougent pour venir se marrer à nos films parce que sinon on est là, c'est grâce à tout le monde quoi. Donc ça fait un peu réponse Miss France, hein, j'avoue, mais c'est sincère en tout cas.
C'est le seul moment, nous, dans notre travail, on peut rencontrer les gens, donc là, de voir que les salles sont pleines, c'est un beau cadeau pour continuer dans Miss France. Moi, je ferais Miss Touraine, tiens.
Voilà. T'es pas à l'abri de gagner, David.
Ouais, je sais.
Sinon, au niveau projet, est-ce qu'il y a des choses qui vous tenteraient? Bon, c'est un peu court, puisque là, vous êtes encore dans la promotion du film. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous tenteraient bien?
Oui, des nouvelles choses. Enfin, surtout, là, avec David, on est en train de travailler sur de nouveaux sketchs.
Ouais.
Voilà, après avoir écrit un long métrage, on aime bien alterner. On avait écrit Max et Léon. Après Max et Léon, on avait fait un programme qui s'appelle Canoff. Après, on avait fait un Prime sur TF1. Ensuite, on a écrit Les Vedettes, donc on est repassé au long métrage. Et puis maintenant, on a tourné le long métrage. On se dit, tiens, on prendra bien des sketchs. En fait, on marche vraiment à l'envie et aux choses qui nous font rire, donc on se dit pas on va faire que des sketchs ou alors maintenant qu'on a fait des films on va vraiment rester au cinéma. Non, on fait des choses qui nous font rire. Et bah écoutez, c'était la meilleure des réponses de...
Est-ce que vous rêvez de tourner avec un acteur, par exemple, si vous pouviez avoir la possibilité?
Ouais, moi j'aimerais beaucoup avoir Will Ferrell, mais je suis pas sûr qu'il soit tout à fait dispo, Will Ferrell.
Bah, on peut l'appeler.
Mais en acteur français, pour être plus réaliste...
Là, un acteur français avec qui tourner?
Ah, Denis Ménochet, tiens.
Ouais, Denis Ménochet, très bonne réponse. Voilà. On aimerait beaucoup qu'il vienne tourner avec nous.
On est sûr qu'il a un potentiel de comédie, incroyable. Voilà.
Vous avez une petite idée derrière la tête?
Non, on l'a pas, en tout cas, c'est l'acteur qui nous
fait flasher.
Nous impressionne énormément.
Ouais. Vraiment.
Au niveau des... Il y a une critique, par exemple, de Nagui avec la chanson. Est-ce que ça a bien été pris par les personnes de ce niveau-là? Parce que je sais qu'en général, il est un petit peu...
On n'a pas visé quelqu'un, en fait. Ouais, on n'a pas visé... Le jeu fait penser à l'animateur, c'est vrai. Mais justement, nous, on a vraiment créé un personnage, comme on peut en trouver partout. Justement, lui aussi fait partie de ces gens qui viennent de passer la cinquantaine, sont dans un métier d'image, doivent assurer leurs arrières, donc il y a lui aussi ce complexe de supériorité où il en fait des tonnes et il est très sur son image et tout. Et puis après, on l'a rendu un peu débile aussi parce qu'il fallait bien rajouter des traits de caractère un peu caricaturaux à des personnages. Donc vraiment, non, je crois que il y a personne qui est visé et c'est vraiment un tout. Et faut pas oublier que c'est une comédie aussi. On n'est pas là pour aller pointer.
C'est une critique générale de la télé-réalité.
Exactement.
Et on retrouve une bande originale, cette fois celle de leur premier film, La folle histoire de Max et Léon, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est fait par Charles Ludic et ça s'appelle Londres Suisse.
Thank you.
Donc, on va parler aussi un petit peu des films qu'on fait les deux compères. Alors, on a, en 2013, on l'a trouvé, on peut les voir dans Les Gazelles de Mona Anache, où ils jouent Marco et Olivier. En 2014, on les a retrouvés dans Les Francis de Fabrice Begotti, et ils jouaient le rôle des douaniers. Petite apparition en 2014 dans Babysitting de Philippe Lachaud et Nicolas Benarroux, où ils jouaient les fameux Paul et Jean. En 2016, bien sûr, on en a parlé, on a entendu la musique, La folle histoire de Max et Léon, où ils jouaient justement les Max et Léon, et c'était donc leur premier film en tant que scénariste. En 2017, Santa et compagnie, de Alain Chabat, et ils jouaient l'inspecteur Olivier Le Guénec et les commissaires Stéphane Bertoli. En 2020, on les retrouve dans le film d'Albert Dupontel, qui a été multi-césarisé, Adieu les cons, et jouer les deux préposés. Et en 2020, on les voit aussi dans un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Mandibule, où ils jouent Jean-Gab et Manu. Une histoire un petit peu rocambolesque et toujours assez étrange. Et c'est vraiment ils sont très à l'aise dans le monde de Dupieux.
De cœur vidéo.
Notre coup de cœur de la semaine, coup de cœur vidéo, bien c'est The Last Son, un western de l'année dernière, de 2021. On y retrouve Machine Gun Kelly, Sam Worthington, Heather Graham, entre autres. Alors ça se passe à la fin du 19e siècle. Le bandit Isaac Limay apprend qu'il est victime d'une prophétie annonçant sa mort de la main de son propre fils. Aussi, il décide de partir à la recherche de celui-ci, qui s'appelle Cole, pour l'abattre avant qu'il ne le fasse. Il doit faire vite car un shérif le recherche parce que Cal est aussi un super méchant. Donc il y a un univers bien glauque, bien noir, pas loin, très loin des westerns aseptisés qu'on avait style John Ford où c'était un petit peu l'Ouest un petit peu fantasmé. Là, c'est vraiment du pur et du dur et ce film est assez sympathique, j'ai eu l'occasion de le voir. J'ai bien aimé, donc vous pouvez le retrouver bien sûr en vidéo. Le coup de cœur rétro, donc là c'est plutôt un film fantastique monstre, puisque c'est Razorback de Russell Mulcahy de 1981, et on retrouve Gregory Harrison et Anki Whitley. Donc Anki Whitley, c'est celle qui joue la blonde dans Mad Max 2, la jeune fille. Donc elle a eu une carrière assez courte parce qu'elle est morte de problèmes de santé. Un cancer, je crois, si je me souviens bien. Donc elle n'a pas une grande carrière, mais c'est une actrice qui, dans ce film, joue un des premiers rôles. Alors c'est l'histoire de la folie meurtrière d'un Razorback, un énorme sanglier sauvage d'Australie, qui est au cœur de cette longue traque à laquelle va se livrer le mari de la journaliste qui a été victime de ce monstrueux animal. Il va très vite découvrir que les machiavéliques dirigeants de l'usine d'aliments pour chiens de la région ont un rapport direct avec la mutation qu'a subi l'animal. Donc, superbe image, on est en Australie, il y a des belles couleurs. Russell Mulcahy, c'est lui qui fera plus tard Highlander, avec Christophe Lambert et Sean Connery. Et on voit déjà qu'il avait cet esprit de transition des couleurs, de transition des images. Et Razorback, justement, était un film, bon, c'est à l'époque où Jaws, Les Dents de la Mer ont bien marché, tous ces genres de films. Et là, c'était assez original de faire ça, justement. On voit un petit peu comment les Australiens, le bush, c'est vraiment sauvage. Et justement, c'est une confrontation entre le monde de citadins des villes et des Américains qui se retrouvent à aller en Australie. Et donc, il y a aussi un choc des deux cultures. Le coup de cœur news, eh bien, c'est Mewen qui vient d'engager pour la prochaine réalisation d'un film historique où il incarnera Louis XV. Eh bien, c'est notre cher ami Johnny Depp qui va revenir au cinéma grâce aux Français. Et le tournage va prendre cet été à Versailles et sera produit par Why Not Productions, déjà derrière ADN, l'autre projet de Mewen. Ce projet est actuellement sans titre de la réalisatrice française, devrait donc être son premier film du cinéma depuis Les Animaux Fantastiques pour Johnny Depp, Les Animaux Fantastiques 2, et sorti sur grand écran en 2018. Et donc, le dernier film qu'il avait fait est sorti directement sur Netflix. Donc, bah, peut-être on va voir une renaissance de Johnny Depp.
Les films à venir avec nos partenaires les cinémas CGR de Tours.
Les avant-premières et événements, bien fin du cycle Dario Argento avec Phénoména au CGR Centre. Ça sera le vendredi 4 février à 18h. Et on enchaînera ensuite, toujours au CGR Centre, sur le cycle Ingmar Bergman du 3 au 4 mars au CGR Centre avec les films Le Septième Sceau, Les Fraises Sauvages, La Source et Persona. Donc pour les fans de Bergman et de ciné d'auteur, vous pouvez vous rendre au CGR. Qui, d'ailleurs, CGR Centre nous réservera tout un tas de cycles au long de l'année. Donc, ça permet de découvrir ou de redécouvrir certaines pépites du cinéma international. Les sorties cinéma prévues autres pour ce mois de février. Donc, on accompagne un drame français dont, normalement, on devrait faire avec Cinéphage la couverture. Donc, c'est sur le monde du compagnonnage. Le choc entre... une jeune des quartiers qui va découvrir le compagnonnage, donc un monde totalement différent de ce qu'elle connaît, et va avoir une révélation pour un métier qui est celui de fabriquer des vitraux. Ensuite, Moonfall, la science-fiction catastrophe US avec Halle Berry. Un remake, celui de Mort sur le Nil, le polar, on retrouvera Hercule Poirot, alias Kenneth Branagh, qui réalise aussi le film, Gaël Gadeau, Annette Bening, entre autres. On en avait parlé avec David, le fameux Uncharted, un film d'action US, hein, tiré du jeu vidéo, avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas. On retrouvera aussi la bande à Philippe Lachaud avec Super-héros malgré lui, une comédie française où on va retrouver Tarek Boudali, Julien Arrouti, enfin toute la sainte clique, pour passer de la comédie science-fiction super-héros, mais à la française un petit peu. Je pense que ce sera plutôt une parodie. Puis pour les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier les enfants, il y a Vanille, un dessin animé, et Vaillante, un autre dessin animé. Et puis la fin du triptyque, Mais qu'est-ce qu'on a tous fait, oh bon Dieu, comédie française, qui se déroule avec une famille de Chinons. Donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu, autant parler du local, puisqu'il y a une partie des scènes qui sont tournées à Chinon. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centres de Lyon de Tours, sur notre site radioactivefm.fr. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage numéro 180 spécial Les Vedettes du duo Palma Show. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain cinéphage. Mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.